En colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Canal Académie vous propose d'écouter 5 interventions d'académiciens des sciences morales et politiques et de l'Académie pontificale de Rome dans le cadre d'un colloque consacré à l'identité changeante de l'individu. Celui-ci s'est déroulé à la Fondation Simone et Cino del Duca à Paris les 24-25 janvier 2008 en lien avec l'Institut de France et l'Académie pontificale. Dans ce premier enregistrement, nous vous proposons d'écouter François Gros, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences. Généticien, il avait mis en évidence en 61 l'existence d'acides ribonucléiques messagers avec Jacques Monod et François Jacob. Sa communication ici s'intitule « Identité biologique, gènes, génome et environnement ». Il évoque l'identité biologique par opposition à l'individualité et développe surtout son thème de prédilection, la génétique, ou comment le génome humain nous rend à la fois si identique et différent. On écoute tout de suite François Gros de l'Académie des Science.
Nous essaierons d'envisager trois aspects. Le premier concerne justement le mode de fonctionnement des gènes. Comment est-ce que les gènes déterminent au fond notre complexité physiologique et éventuellement d'autres facteurs, peut-être même cognitifs. Le second point que je voudrais aborder, que j'avais déjà abordé à la conférence précédente, c'est de voir dans quelle mesure chaque être vivant, présent sur cette planète, chaque individu parmi les 6 milliards de personnes humaines vivant actuellement, est strictement identique ou au contraire possède des particularités qui le distinguent de tous les autres. Troisièmement, peut-être le point le plus important, c'est dans quelle mesure justement il existerait un déterminisme génétique plus ou moins direct, plus ou moins indirect, de nos fonctions cognitives. La première partie est donc relative au fonctionnement de notre génome. Nous savons tous, et j'ai un peu honte de le rappeler, que le matériel génétique présent dans nos chromosomes est une molécule, l'acide déoxyribonucléique, qui a été découverte par un chimiste balois, Friedrich Schmicher, en 1863, et dont la structure a été établie 90 ans après par Watson et Crick. Une double hélice dont vous voyez ici le modèle qui est assez complexe puisque c'est un modèle plein comme disent les cristallographes. Les boules rouges représentent au fond d'une manière un peu schématique les éléments qui s'alignent le long de ces chaînes en entrelacs, ces éléments chimiques qui sont les bases de l'acide nucléique et dont je rappelle la nature qui sont des adénines, des thymines, des guanines et des cytosines. Le point important, c'est que le génome humain, en réalité, comprend un nombre considérable de ces éléments chimiques alignés. Un peu plus de 3 milliards de paires de ces bases, de ces éléments chimiques, si toutefois on considérait l'ensemble de l'ADN présent dans les 23 paires de chromosomes comme une longue molécule alignée, disons d'environ un mètre de long. 3,5 milliards de paires de bases, c'est évidemment une complexité chimique tout à fait considérable. Néanmoins, en dépit de cet énorme, aspect numérique des choses, le génome de l'homme ne comprend au fond que 25 000 gènes proprement dits, c'est-à-dire d'éléments du matériel héréditaire capables de coder, on dit coder pour ou coder directement, des acides nucléiques, des protéines, et par conséquent, de déterminer les caractéristiques. 25 000 gènes, c'est peu différent d'ailleurs du nombre de gènes qu'on trouve chez notre cousin évolutif, c'est-à-dire le chimpanzé, par exemple. C'est pas très différent non plus de ce qu'on trouve dans les plantes supérieures, puisque le riz, par exemple, la plante Oryza, comprend même plus de gènes que l'homme. C'est dire que tout est une affaire de combinatoire des produits de ces gènes, nous allons y revenir, beaucoup plus que le nombre absolu. Alors, ce que je vais dire aussi, c'est que ces 25 000 gènes constituent dans l'ensemble, au niveau biologique, seulement 3% peut-être au total contenu de l'ADN. Ce qui veut dire que 97% de ce contenu est formé par ce qu'on appelle de l'ADN non codant, très riche en des petites séquences répétées qu'on appelle des satellites et dont le rôle n'est pas encore totalement déterminé, mais petites séquences qui ont certainement une fonction dans la régulation et dont certaines d'ailleurs sont capables de fabriquer, de coder des acides ribonucléiques particuliers dont on a découvert le rôle il y a peu de temps, environ une dizaine d'années, qui jouent un rôle de régulateur de fonction générale. On voit sur ce schéma quelque chose de tout à fait frappant, c'est que le rapport entre l'ADN non codant et l'ADN codant, ou si vous voulez la proportion de l'ADN non codant, augmente considérablement avec le degré évolutif des espèces, au point que chez l'homme, c'est la barre verticale la plus à droite, près de 85,8%, 88,5% pardon, est constitué d'ADN non codant. C'est dire le rôle très important que joue cette portion de notre chromosome. Pendant longtemps, on s'est borné à considérer le gène comme un segment tout à fait indépendant du génome global, pour la simple raison qu'on avait beaucoup de difficultés à purifier les gènes des organismes supérieurs. Donc le schéma qui en rendait compte, qui est un schéma classique, c'était que ce gène, petit segment d'ADN, avait un contenu informatif lié à l'alignement des bases de l'ADN et que le code génétique qu'il renfermait était décrypté en deux étapes. La première étape qu'on appelait la transcription, qui conduisait à la production d'ARN messager, et la seconde, traduction, synthèse de protéines au contact de cette matrice d'ARN messager. Alors, ce schéma est exact, évidemment, dans les grandes lignes. Il rend assez bien compte du fait qu'un gène peut déterminer, par exemple, une caractéristique unique et particulière, laquelle est évidemment portée par les fonctions catalytiques de la protéine. Cela étant, il est relativement incomplet lorsque l'on veut expliquer le déterminisme génomique par l'ensemble de notre matériel héréditaire de toute notre complexité physiologique. C'est pourquoi la génomique aujourd'hui, grâce aux technologies nouvelles qui ont été mises en œuvre, par exemple le séquençage complet de l'ADN, par exemple du génome humain, les études grâce aux techniques, aux nanotechnologies, les techniques de miniaturisation qui permettent d'avoir une vision d'ensemble de tous les ARN messagers présents dans une cellule à un instant donné, de toutes les protéines, permettent d'aboutir aujourd'hui également à un schéma apparemment plus complexe, mais plus complet, sur lequel on peut voir que le génome, c'est-à-dire l'ensemble de notre matériel héréditaire, qui comprend, comme je l'ai dit, les séquences non codantes, mais les séquences codantes, est capable d'être copié en un ensemble d'ARN messagers, ce qu'on appelle le transcriptome. Donc, encore une fois, la globalité des transcrits qui émanent du copiage par les polymérases des chaînes de l'ADN. Ce transcriptome est traduit en un ensemble très complexe de protéines, le protéome. Et le message principal, c'est que, d'une part, ce protéome comprend un nombre considérable d'éléments de protéines. Certaines d'entre elles, par exemple, interviennent dans la constitution des anticorps, c'est l'immunome. D'autres dans l'ensemble du métabolisme, catalysé par les enzymes, le métabolome. Il y a également l'ensemble des récepteurs, les kinomes, etc. Et puis les protéines de régulation. Et ce qu'on peut voir sur ce schéma, c'est qu'il y a une intégration parfaite à toutes les échelles, évidemment, de cette cascade. En particulier, non seulement chaque élément interagit avec celui qui lui a donné naissance, mais chaque élément d'un ensemble, par exemple le protéome, est capable d'interagir avec, en quelque sorte, son cousin moléculaire. Alors, il est important aussi de noter sur ce schéma que le rôle de l'environnement est capable d'interagir non seulement au niveau des protéines, mais au niveau des gènes. On a donc là un schéma parfaitement intégré auquel les technologies modernes peuvent donner accès. Donc le premier message, en quelque sorte, c'est que notre génome doit être considéré aujourd'hui comme un ensemble parfaitement intégré, non seulement de séquences codantes, mais également d'actions de séquences non codantes, et également d'interactions multiples à tous les étages de la cascade. ce qui évidemment rend probablement mieux compte de la physiologie très complexe, puisqu'il y a probablement près de 500 000 types de protéines présentes dans une cellule d'organisme supérieur, comme disent les biologistes, une cellule eucaryote. La deuxième partie de mon exposé, comme je l'ai dit tout à l'heure, concerne le problème de l'identité biologique au sens de l'individualité génétique. On peut la résumer en disant, selon la formule de Langanet, que nous sommes tous parents, c'est-à-dire nous avons tous un génome qui est à peu près identique, à quelques fractions de pourcent près, et ceci parmi les 6 milliards d'individus de la planète, mais nous sommes tous différents par certaines particularités. En fait, ces particularités relèvent de plusieurs traits, soit des mutations qui peuvent être héritées de nos parents, ou apparaître sporadiquement et qui, en fait, peuvent moduler notre physiologie et même nos comportements. Notre système HLA, dont probablement Edgardo Carosella parlera plus en détail, qui est en fait un système qui a été découvert il y a quelques années, comme vous le savez, notamment par Jean Dausset. Il s'agit des antigènes qui sont présents à la surface de nos cellules et qui permettent de déterminer le soi et le distinguer par rapport au non-soi. Donc un problème essentiellement de repérage immunologique très important. La répartition des satellites dont j'ai parlé tout à l'heure, ces courtes séquences, parfois de simplement 3 lettres ou 4 ou 5, qui peuvent être répétées un nombre considérable de fois le long du génome, dans l'ADN non codant, mais aussi, et ceci a été découvert il y a seulement une vingtaine d'années, ce qu'on appelle le polymorphisme au niveau d'un nucléotide. En effet, c'est une notion nouvelle, c'est que dans l'immense séquence de l'ADN, les séquenceurs ont permis d'identifier qu'il y avait pratiquement toutes les 1000 paires de bases, statistiquement, une petite modification d'un nucléotide et d'un changement d'un nucléotide par un autre. On appelle ça en anglais les single nucleotide polymorphisms ou des SNP dans l'argot biologique. Et ces SNP, en fait, sont très importants parce qu'ils permettent précisément une certaine typologie génétique de chaque individu. Vous avez pu calculer que 1 pour 1000, compte tenu du contenu informatique global de l'ADN, ça veut dire que nous avons à peu près 3 millions de ces toutes petites particularités qui ne concernent qu'un nucléotide dans notre génome. Il est évident que leur répartition d'un individu à l'autre va être très différente. Je reviens un tout petit peu en arrière. Mutations. Ces mutations sont heureusement relativement rares. Elles donnent lieu malheureusement souvent, pas toujours, peuvent être neutres, mais souvent à des maladies génétiques qui peuvent être monogéniques ou polygéniques. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elles ont commencé à être décrites dès 1791 par le savant Maupertuis, qui avait d'autres cordes à son arc, comme on sait, et qui a décrit la polydactylie en 1791. Puis il y a eu toute une série de travaux, la myopathie de Duchenne, la maladie de Huntington, et puis par exemple les drépanocytoses, c'est-à-dire les maladies du sang, l'anémie falciforme. Et c'est seulement dans le début des années 50, ou plutôt dans le milieu des années 50, qu'on a établi la corrélation entre les mutations causes de maladies génétiques et la biologie moléculaire, c'est-à-dire le changement d'un élément, par exemple, d'un acide aminé dans une protéine. Il y a eu également des travaux au niveau du chromosome, comme ceux de Jérôme Lejeune. Ces maladies, je l'ai dit, sont relativement rares. Heureusement, elles peuvent être graves et incompatibles avec la survie. Elles peuvent être chroniques, elles peuvent être parfois mortelles. On a calculé que plus de 3 millions de personnes étaient actuellement touchées par ces maladies, ce qui évidemment pose de graves problèmes parce qu'elles sont souvent considérées comme des maladies rares, relativement peu prises en compte par la pharmacologie. Environ 25 millions de personnes en Europe et probablement un total d'environ 100 millions dans le monde. Mais vous voyez que 100 millions par rapport à 6 milliards nous dit tout de suite qu'on ne peut pas établir une typologie, fort heureusement d'ailleurs, par rapport aux mutations qui modifient notre physiologie, notre comportement. Donc il faut s'adresser à d'autres paramètres, en particulier par exemple à la distribution des satellites, à la fragmentation de l'ADN en fonction justement des coupures par des enzymes au niveau des polymorphismes à nucléotides uniques. On peut voir ici d'ailleurs une technologie déjà relativement ancienne, mise au point par Jeffreys dans le début des années 80, qui permet de distinguer, vous le voyez notamment dans le panel appelé BB, la comparaison de deux vrais jumeaux, d'autres comparaisons de faux jumeaux. Et on voit tout de suite que si l'on fragmente l'ADN de ces personnes et qu'on les déplace par un champ électrique en électrophorèse, puis qu'on les caractérise en autoradiographie, la distribution des bandes correspondantes peut être très différente ou strictement ou à très peu de choses près identique, bien qu'il y ait, comme on va le voir, d'autres modifications qui peuvent typer en quelque sorte le génome des individus, qu'on appelle des modifications épigénétiques, sur lesquelles d'ailleurs Jean-François Bach reviendra très probablement. Modifications qui ne concernent pas la séquence de l'ADN, mais qui peuvent concerner par exemple sa méthylation au niveau du début de l'expression des gènes ou les propriétés des chromosomes. Enfin, une vue pour montrer de manière un petit peu populaire, si je puis dire, le caractère des polymorphismes au niveau d'un seul nucléotide. On peut voir ici que dans une séquence donnée, il peut y avoir l'inversion, par exemple, d'une lettre A par une lettre G, ou une lettre G par une lettre A, etc. Et ce sont ces petits polymorphismes qui jouent un rôle important, à la fois dans la typologie, si on veut l'établir, et en même temps dans les relations statistiques que l'on peut établir également avec la survenue de certaines maladies ou certaines pathologies, voire la résistance à certains médicaments. La troisième partie de mon exposé concerne, comme je l'ai dit, ce que l'on peut savoir ou déterminer des relations entre le génome et le comportement des organismes supérieurs, ainsi que certaines fonctions cognitives. Alors, bien entendu, cette question a été abordée au début chez l'animal. On a démontré que des mutations, même ponctuelles, comme la mutation footless chez la drosophile, ou la mutation d'un des récepteurs, d'un gène qui code pour le récepteur D4, qui est le récepteur de la dopamine, toutes ces mutations peuvent entraîner des modifications apparemment complexes du comportement des animaux. Par exemple, l'instinct maternel chez la drosophile, le comportement sexuel, le degré d'activité, disons, et de mémorisation, l'agressivité, bien sûr. Mais toutes ces données, pour intéressantes qu'elles soient, ne nous renseignent pas beaucoup sur le déterminisme génétique des fonctions humaines et des fonctions cognitives en particulier. C'est la raison pour laquelle on a recherché d'autres approches. Avant de dire un mot des mutations neurologiques chez l'homme, par lesquelles je terminerai, je vais dire qu'il y a eu beaucoup d'approches, évidemment, de la neurogénétique. Par exemple, on a réussi à identifier, à cloner, à purifier les gènes qui sont à l'origine des protéines qui sont dans les jonctions synaptiques. On a purifié les gènes des enzymes qui fabriquent les neurotransmetteurs, qui fabriquent des récepteurs. On s'est aperçu également que, par exemple, lorsque l'on bloque la synthèse de protéines chez des animaux, chose remarquable, donc l'expression de certains gènes, la mémoire à long terme ne pouvait s'établir alors que la mémoire à court terme persistait. On a donc fait des études, on a corrélé par exemple certaines fonctions cognitives avec la distribution d'ensemble du transcriptome grâce aux techniques que j'évoquais tout à l'heure, ou du protéome. Mais pour avoir des indications un petit peu plus directes, on a recherché s'il y avait un déterminisme génétique, par exemple dans des maladies neurologiques. Ici, il y a évidemment un tableau relatif aux maladies neurodégénératives, dont les plus connues sont les maladies de Parkinson, l'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique. Et sans entrer dans les détails, on peut voir ou concevoir que un très grand nombre de gènes ont été déterminés déjà, qui semblent être à l'origine, par leur mutation, du déclenchement de ces maladies. Par exemple, dans le cas de la maladie de Parkinson, on sait que certains gènes, qui sont d'ailleurs des gènes présents sur des autosomes, non pas sur des chromosomes sexuels, peuvent coder pour des protéines qui sont des protéines toxiques et qui démolissent en quelque sorte les cellules dopaminergiques. Dans le cas de l'Alzheimer, certains gènes codent pour des protéines qui sont à l'origine du dépôt amyloïde ou bien codent pour la gamma-synthétase, la gamma-synthétase qui coupe des presénilines qui, elles aussi, sont à l'origine de certains types de dépôts. Et on sait, on voit tout de suite d'ailleurs que toutes ces maladies ont en fait un support multigénique et que c'est de la combinatoire de ces mutations, et heureusement de cette combinatoire seulement, ainsi que de la mutation des gènes dits de susceptibilité que peuvent émerger ces maladies. Il n'empêche qu'on a aujourd'hui une cartographie relativement bien établie du génotypage en quelque sorte de ces maladies, y compris les maladies de Huntington ou d'autres maladies plus complexes. Les maladies les plus intéressantes sont celles qui sont liées au chromosome X, donc là, le retard mental lié à l'X, qui est une maladie qui est relativement fréquente chez le jeune enfant et dont on a montré qu'il affecte un gène codant pour une protéine qui elle-même contrôle la synthèse des protéines dans les jonctions synaptiques. Donc c'est quelque chose de relativement précis, ce qui est à l'origine de modifications dans la plasticité des synapses, donc dans l'apprentissage. Également, dans le cas de l'autisme, on a pu déterminer qu'il y avait des gènes présents sur le chromosome X de neuronaux. Et c'est peut-être une des choses les plus passionnantes, les plus intéressantes, c'est qu'en étudiant une famille particulière, dont évidemment on a conservé le caractère tout à fait confidentiel, on s'est aperçu que plus de 50% des membres de la famille souffraient d'un défaut de langage. Ils ne pouvaient pas, disons, faire fonctionner la musculature orofaciale qui est à l'origine du langage, ni la voûte palatine. Ils ne comprenaient pas non plus les vocables. En recherchant l'origine de ce dysfonctionnement, on s'est aperçu qu'il y avait une mutation dans un gène, le gène FOXP2, qui code pour un facteur de transcription et qui est exprimé justement à différents étages du cerveau. Et la chose importante, c'est qu'on a retrouvé ce gène chez les autres animaux, et lorsqu'on a comparé le produit de ce gène chez les animaux et chez l'homme, on s'est aperçu que la protéine codée par ce gène différait de celle qui est codée chez les animaux par deux petites modifications qui sont au niveau 911 et 977. Or, on a retrouvé très récemment que ces petites modifications étaient apparues déjà chez l'homme de Néandertal, dont on a retrouvé évidemment des restes, amplifié l'ADN et pu établir la cartographie. D'où l'idée que très probablement, au cours de l'évolution, s'est opérée une sélection positive qui a permis justement de favoriser une réactivité particulière de ce facteur de transcription au niveau des centres du langage qui aurait pu probablement être à l'origine du langage articulé. Donc, conclusion, elle tient en trois parties. D'une part, on peut dire qu'une part très importante de notre moi physiologique est probablement moins importante, mais tout de même de notre moi, disons, cognitif, est déterminée par nos gènes, mais surtout des gènes qui codent pour le développement en quelque sorte, de nos tissus, de nos organes, y compris de certaines aires cérébrales. Deuxièmement, nous l'avons vu, nous sommes tous parents, mais tous différents, c'est-à-dire que nous avons des particularités dans notre génome qui jouent un rôle considérable dans le mode d'expression de ces gènes au cours du développement. Troisièmement, si l'on pense évidemment au caractère changeant du déterminisme génétique, on peut dire que ce changement n'apparaît pas tellement au cours de la vie par des modifications directes du génome, mais par des modifications dans les modalités d'expression de ces gènes et dans les combinatoires qui en résultent.
C'était le généticien François Gros, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences. Il s'exprimait sur l'individualité de l'homme sur un plan cognitif et de son unicité sur un plan génétique dans le cadre d'un colloque consacré à l'identité changeante de l'individu qui s'est déroulé fin janvier 2008 à la Fondation Simone Cino del Duca à Paris. Restez sur Canal Académie et écoutez les interventions des confrères de François Gros. Bernard Roque, membre de l'Académie des sciences, développe le thème des drogues et de la recherche d'identité. Jean-François Bach évoque le thème toujours troublant des vrais jumeaux et de leur identité. Son éminence Marcello Sanchez Sorondo, chancelier des Académies pontificales des sciences et des sciences sociales, développe quant à lui une possible réconciliation entre notion d'identité pour les scientifiques et les philosophes. Enfin, François Terré, juriste, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, s'exprime sur l'identité dans les textes de droit. Toutes ces interventions sont sur le site de Canal Académie en libre téléchargement. Merci de votre écoute et à très vite pour de nouvelles émissions.